Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Chants, reprises en chœur, agressions, insultes directes à des joueurs et à des joueuses, bras et doigts tendus à l'occasion, ambiance virile ou viriliste et autres blagues de vestiaire, c'est le quotidien et même peut-être une forme de culture autour du sport de haut niveau, ou pas d'ailleurs. Racisme, homophobie, sexisme, antisémitisme se font entendre dans les stades de manière quasi quotidienne. La semaine dernière, la ministre française des Sports, Roxana Maracineanu, était choquée par les chants homophobes qu'elle avait entendus pendant PSGOM et elle envisage de sévir. Hier, des joueurs de la Juventus de Turin entendaient des cris de singe à Cagliari. Comment lutter contre l'homophobie, le racisme et la haine dans les stades? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Julien Pontes, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole de Rouge Direct. C'est un collectif lanceur d'alerte contre l'homophobie dans le football et plus largement dans le sport. Et Séguir Lazeri, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chroniqueur à Libération et vous travaillez sur les aspects sociaux et sociétaux du sport. On va tout de suite préciser que si j'ai donné deux exemples dans le football, le problème ne se limite absolument pas au ballon rond. On voit aussi ce type de comportement dans le rugby, le basket et bien d'autres disciplines. Ce sont des événements, un phénomène qui sont en augmentation, selon vous, Julien Pontes?
Alors, ça, c'est très difficile de mesurer l'augmentation ou pas de ces chants homophobes, de ces faits d'homophobie dans les stades, étant donné que aucun indicateur n'est mis en place par les responsables, les instances du football ou le ministère des Sports, ce qui serait la moindre des choses quand on veut s'attaquer aux chants homophobes. Simplement, ce qu'on constate avec la ministre des Sports, comme elle a pu le constater pendant le classico PSG-OM, c'est que ces chants persistent dans les stades de foot, et même la présidente de la Ligue de foot professionnelle, dans son interview au Parisien, où elle assimile les chants homophobes à du folklore, elle reconnaît également qu'elle fait elle assiste à une cinquantaine de matchs par an et qu'elle entend régulièrement des chants homophobes dans les stades de foot. Voilà, donc il serait bon que ces faits soient objectivés, qu'on ait des commissions d'observation dans les stades, qu'on puisse déjà partir d'un constat plus précis. Nous, ce qu'on sait, c'est que ne serait-ce que sur YouTube, vous avez des dizaines et des dizaines de vidéos de chants homophobes qui ne sont pas sanctionnés. Voilà, ça, c'est un phénomène qui persiste parce qu'il n'est jamais sanctionné.
Séguir Lazeri, on ne veut pas voir, on ferme les yeux volontairement sur ces phénomènes homophobes et racistes et haineux de manière générale.
Fermer les yeux, je ne sais pas trop. Je saurais pas vous dire vraiment s'il y a vraiment un voile qui se place devant les institutions. Je sais par exemple que en France depuis 2008 on a signé quand même des partenariats avec des associations, notamment le Paris Football Gay, SOS Homophobie et d'autres structures pour justement promouvoir et puis surtout lutter contre l'homophobie. Donc en fait il y a vraiment une démarche qui a été faite, il y a une démarche qui est enclenchée. Après c'est la nature même du sport, moi je pense, qui empêche vraiment ce discours de porter ses fruits, et aussi l'émergence aussi du spectacle sportif qui justement fait générer tout un tas d'émotions et finalement ne montre pas les résultats tant attendus de telle politique.
Julien Pontes, oui. Vous avez été membre et même à l'origine du Paris Foot Gay il y a quelques années. Oui, oui. Ça a duré 12 ans. Pourquoi ça s'est arrêté?
Alors déjà, je rebondis sur ce que dit Monsieur Lazeri. C'est juste. Effectivement, la Ligue de foot professionnelle avait signé notre charte en 2008 et même mieux que ça, en 2010, on avait été très loin avec Ramayad, qui était ministre des Sports, qui avait repris la charte contre l'homophobie du Paris Foot Gay. Elle avait fait un copier-coller. Elle avait mis l'en-tête du ministère des Sports. C'est très bien, c'est pas grave, au contraire. Et elle avait fait signer cette charte contre l'homophobie à l'ensemble des fédérations sportives de France. Bon, à partir du moment où les présidents de fédération mettent leur petite signature au bas d'une charte, eh bien, ils considèrent qu'ils ont fait un grand pas dans la lutte contre l'homophobie et ne mettent strictement rien en place. Bon, Ramayad a fait des efforts. On a, je pense, jamais été aussi loin dans la lutte, dans l'affichage en tout cas, de la lutte contre l'homophobie. Après, on a eu Monsieur David Douillet qui l'a remplacé, donc autant vous dire que c'était terminé. Et nous, au Paris Foot Gay...
Il s'est fait remarquer par des déclarations
homophobes, tout à fait, voilà. Oui. Donc, et à partir de 2013, nous, on a assisté au Paris Foot Gay, j'en étais le dernier président, on a assisté à un recul progressif de l'engagement des instances du foot et des responsables politiques dans leur volonté de lutter efficacement contre l'homophobie. On a assisté à ce qu'on appelle des opérations de pinkwashing. Le pinkwashing, c'est qu'on met un tout petit peu de vernis rose en faisant une action de communication très très bas de gamme une fois par an, et puis on considère que ça y est, on a fait reculer l'homophobie, alors que pas du tout. On voit bien que dans les champs, dans les stades de foot, rien n'a changé, ça continue encore. Nous, on est lanceurs d'alerte, donc on récupère des vidéos de chants homophobes. Bon ben voilà, encore en février dernier, on a reçu une vidéo de chants homophobes au stade Marcel Picot, là, à Nancy. Bon, eh bien voilà, la ministre, la présidente de la Ligue de foot professionnelle considère que c'est du folklore. Donc le folklore, c'est mignon, c'est festif, c'est presque du patrimoine. Donc bon, ben voilà, elle refuse de sanctionner contre l'avis des Français, hein, qui se sont exprimés dans un sondage du week-end dernier. Les Français, même les supporters de football, sont 65% à approuver la volonté de la ministre des Sports de sanctionner les chants homophobes. 65% des supporters sont pour.
Alors tout ça, c'est pas juste chez les professionnels, c'est tous les week-ends, sur tous les terrains, même chez les jeunes. Le boulot est immense, Aguirre Lazeri.
Alors oui, alors pour le coup, ce qu'il faut essayer de faire, je pense, alors on parle beaucoup de sanctions et tout ça, certes elles sont importantes, il est important de lancer des alertes, il est important de recenser tous ces actes-là, mais il est aussi important, et ça je pense que c'est aussi le grand travail des sciences sociales, c'est de comprendre le phénomène, mais comprendre ce n'est pas excuser, hein. Il faut être très clair dessus. Et quand vous parliez justement de tous les phénomènes du week-end, il y a des travaux qui ont été faits. Il y a notamment, je pense, à une anthropologue qui s'appelle Anne Sauté, qui a beaucoup travaillé sur le milieu du rugby amateur, et elle a montré justement qu'à travers ce qu'on appelait les troisièmes mi-temps, il y avait tout un tas de gestes à la fois sexistes, homophobes, racistes, qui se déroulaient dans le plus grand calme. Et ce qui est très particulier, c'est que finalement la socialisation au sport va passer aussi par l'apprentissage, ou plutôt l'appropriation de valeurs qui sont pas nécessairement les valeurs démocratiques, les valeurs de respectabilité dans la société.
Sanctionner, dialoguer ou les deux, Julien Pontès?
Oui, ça c'est un vrai débat, et puis la réponse, je pense, est assez simple, hein. Il faut tenir les deux volets ensemble. Il faut un volet éducation, sensibilisation, notamment dans le football amateur. Mais bon, voilà, la Cour des comptes a rendu un avis en 2018, l'année dernière, pour dire que les responsables de la FFF dépensaient beaucoup d'argent pour eux-mêmes et le sport amateur est abandonné. Donc il n'y a pas de moyens pour mettre en place de vraies actions de sensibilisation sur le terrain. Marc Batta, qui est l'ancien directeur national
de la
FFF, je le cite, disait que les terrains de football sont devenus des défouloirs et que les arbitres ne peuvent pas sanctionner les injures homophobes et racistes. Voilà. Donc là, nous, au collectif Rouge Direct, on dit que maintenant, ça suffit, il faut appliquer le règlement, y compris pour l'homophobie. La LFP le fait un peu pour le racisme, et elle a bien raison. Maintenant, elle doit aussi le faire pour les faits d'homophobie dans les stades. Et d'ailleurs, on lui a adressé une mise en demeure avec notre avocat, et la deuxième mise en demeure va pas tarder à leur arriver.
Alors, rouge direct, ça veut dire qu'il ne faut rien laisser passer. C'est comme un carton rouge direct, hein. On ne multiplie pas les avertissements, on expulse directement. Donc, il faut porter plainte, dénoncer systématiquement. C'est ce que...
Oui, bien sûr. Il faut s'inspirer aussi de ce qui se fait à l'étranger. Là, au mois de janvier, un supporter de Chelsea a proféré des injures homophobes contre les joueurs de Brighton qui sont habitués aux injures homophobe, étant donné qu'il y a une forte communauté gay à Brighton. Bon, ce supporter de Chelsea, il a été identifié, il a été exclu du stade pour 3 ans, il a pris également une amende. Mais il faut un minimum de volonté pour sanctionner les clubs qui laissent faire et les auteurs de ces faits qui sont punis par la loi. L'injure publique pour homophobie, c'est 1 an de prison, 45 000 euros d'amende, et c'est d'ailleurs ce que risque Monsieur Patrice Evra, contre qui on a également porté plainte.
On va en parler, une enquête a été ouverte par le parquet de Paris à son encontre. Seyir Lazeri, j'employais en début d'émission le mot culture à propos de ces comportements. Est-ce que ça vous paraît exagéré? Et comment on fait pour lutter contre une culture?
Alors, Alors, moi, ce qui me, déjà, d'une, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est les propos, du coup, de la présidente de la Ligue professionnelle qui parlait de folklore. Et je trouve que cette
tournure... Tout en précisant, je vais faire l'avocat du diable, ouais. qu'elle le regrettait à titre personnel. Allez-y, continuez.
Oui, qu'elle le regrettait. Mais cela étant, elle fait passer aussi ce fait dans un fait culturel et plus dans un fait sportif. Et en quelque sorte, on peut estimer que c'est une forme de dédouanement et qu'elle n'a pas assumé les conséquences de tout ça. Est-ce que c'est une culture ? Alors, la sociologie nous informe justement, on parle de l'homophobie, mais pour le cas, par exemple, du racisme, qui est aussi des choses qui doivent être totalement sanctionnées et qu'on doit gérer de la même manière. La sociologie, nous dit que finalement, il y a deux types de racisme qu'on peut retrouver dans les stades. Il y a le racisme de conjoncture en quelque sorte, mm-hmm. où finalement on va proférer des insultes par
on est entraîné par l'effet de groupe, c'est ce
exactement
que vous voulez dire,
par l'effet de groupe, mais aussi on va pas avoir d'idéologie profondément raciste, c'est-à-dire qu'en gros on va insulter le joueur africain de l'équipe d'en face, alors que
on est presque
équipe.
Raciste sans s'en rendre compte,
exactement, et on va adorer le joueur africain qui joue dans notre propre équipe, mm-hmm. donc là il y a une forme de racisme comme ça conjoncturel, et puis après il y a un racisme plus idéologique qui s'investit souvent aussi dans des groupes aussi de supporters, il faut pas le cacher, qui lui justement va marquer une profonde haine de l'autre, une profonde haine de l'étranger.
Ouais. Que font les fédérations ? Vous avez commencé à en parler, Julien Pontès, et les ligues. Est-ce que la prise de conscience est en recul ? C'est ce que vous nous disiez en fait.
Oui, je crois qu'il y a deux niveaux en fait. Hein. Il y a les instances du foot au niveau de la direction de la FFF ou de la LFP, où là, je pense qu'on est totalement hors sol. Et il y a le football amateur qui essaye de trouver des solutions avec les moyens du bord pour contrecarrer certains phénomènes, y compris, hein, il ne faut pas se masquer la réalité, même si c'est un phénomène très marginal, mais il y a des phénomènes de radicalisation au sein du football, de petits clubs de
Qu'est-ce que vous voulez dire par là de radicalisation, dans quel sens ?
Ça veut dire que, par exemple, je cite un exemple qui est issu du rapport du ministère des Sports, du rapport de Patrick Caram de 2013, un petit club du quartier de la Goutte d'Or dans le 18e arrondissement, où l'entraîneur, le responsable du club, constate des comportements qui sont très marqués par la religion. Par exemple, le fait, il y a les prières dans les vestiaires, mais également des détails comme le fait de garder ses sous-vêtements sous la douche, pour des raisons de pudeur qui sont liées à la religion musulmane. Bon, je tiens à rappeler que ce sont des phénomènes tout à fait marginaux, mais qui illustrent quand même le fait que le football amateur est totalement démuni parce qu'il manque de moyens au niveau de la direction fédérale. Et ça, il le dit, ce président de club de la Goutte d'Or le dit. C'est pas facile de parler à des adolescents d'homophobie, de sexualité en général. On n'est pas, même quand on a l'intention de leur dire que c'est pas bien de juger quelqu'un sur son orientation sexuelle, eh bien on trouve pas forcément les mots pour le dire, en parler à des ados. C'est pas facile. Là, la Fédération française de football a une responsabilité qu'elle assume de notre point de vue très très mal. Voilà.
Ça peut être un peu différent. Peut-être, c'est Guir Lazeri, il y a quelques jours, la Ligue de rugby, la Fédération de rugby, ont porté à connaissance de la justice un chant homophobe entre supporters des deux clubs basques. De ce côté-là, il peut y avoir aussi quand même c'est juste une façon de prendre le train en marche.
Moi, je pense sincèrement que oui, effectivement, il faut que les fédérations jouent aussi un rôle d'alerte. Il faut que les fédérations contrôlent ce qui se passe donc au plus haut niveau, comme aussi tous les week-ends dans le circuit amateur. Ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que les institutions ont du pouvoir, mais le sport est aussi en quelque sorte le terreau dans lequel justement vont se focaliser toutes les tensions sociales et toutes les problématiques. Donc, si vous voulez, même quand la ministre des Sports dit que il faut que la fédération sanctionne tout ça, il faut que elle aussi, il faut que les instances étatiques assument leurs responsabilités aussi en prenant en charge du coup une lutte globale contre le l'homophobie, une lutte globale contre le racisme dans lequel justement il va y avoir une véritable efficacité. Là, pour le moment, ça devient un peu compliqué parce qu'on se renvoie la balle entre fédération et ministère. Les fédérations, font ce qu'elles peuvent. Je ne sais pas si elles font ce qu'elles peuvent, mais entament des démarches. Et par la suite, du coup, ça ne résout pas le problème. Donc moi, je pense que finalement, il faut considérer le sport comme non pas comme porteur de valeurs, mais comme traversé par les valeurs de la société ou traversé par les faits sociaux.
Oui. Voilà. La solution ne vient-elle pas des sportifs eux-mêmes ? Je parle des plus connus, Julien Pontet. Est-ce qu'ils doivent s'engager davantage ?
Oui. Ça pose la question aussi du coming out pour un joueur de foot professionnel qui souhaiterait
on peut lutter contre l'homophobie tout en n'étant pas gay, hein. On devrait même
absolument dire, comme on peut lutter et on doit lutter contre le racisme même si on n'est pas noir, c'est bien évident. D'ailleurs, Lilian Thuram, il a pris position à de multiples reprises pour dénoncer l'homophobie et l'ensemble des discriminations. C'est sûr que...
Mais on parle d'anciens sportifs, là, on parle de Lilian Thuram, époque de Paris Football Gay, de Vicage de Rasso, mais disons que ça s'est fait après leur carrière.
Oui, c'est toujours pareil. Par exemple, je pense aussi à l'exemple d'un joueur de football américain qui s'appelle Robbie Rogers, qui a fait son coming out juste à la fin de sa carrière. Bon, ce qui s'est passé, c'est que Barack Obama a tenu à rendre hommage au courage de Robbie Rogers d'avoir publiquement annoncé qu'il était gay, il était au milieu de ses coéquipiers. Barack Obama, ça coûte pas cher, vous voyez, de rendre hommage à un joueur gay qui a fait son coming out. C'est une preuve de courage, parce que l'homophobie, on sait que c'est un vrai souci. Bon, ça coûte quoi un responsable comme Monsieur Hollande, Monsieur Macron, d'avoir une parole, juste une parole, c'est 0 euro en investissement, et pourtant ça peut rassurer peut-être des joueurs des joueurs gays, parce que statistiquement il y en a dans le monde professionnel, et une parole de protection pourrait faire bouger les choses. Malheureusement, il n'y a rien. C'est le silence.
On entend, Séguir Lazeri, des sportifs affirmer qu'ils n'ont jamais croisé d'homosexuels dans leur sport. Vous voyez très bien à qui je fais allusion. Oui. Alors que c'est évidemment, ça vient d'être dit, statistiquement impossible. Il y a une omerta, une terreur.
Alors, une omerta, une terreur, je ne sais pas. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, et là où ça devient très intéressant, c'est comprendre la socialisation du sportif de haut niveau. Entrer dans une carrière sportive, c'est entrer dans un monde fermé, un monde d'entre-soi, et entrer aussi dans une idéologie. Alors ça, il y a des auteurs pour ça, je pense à Claire Carrier et à Marc Lévesque, qui sont des psychologues qui ont longtemps travaillé à l'INSEP et qui ont pendant de nombreuses années étudié et suivi le parcours de jeunes athlètes. Et finalement, en fait, on se rend compte que tout est fermé dans ce monde-là. C'est le monde de l'extraordinaire, c'est le monde de la haute performance, le monde du dépassement de soi. Et il est hors de question de penser, quand on entame une carrière, de penser à tout ce qui pourrait parasiter socialement sa vie et sa carrière de champion. Surtout dans un monde où l'ultra-virilité, où le renoncement total, l'affirmation de sexualité devient problématique, on évite de penser à tout ça. Et finalement, je pense qu'il faut justement interagir dans ce milieu-là, essayer de l'ouvrir, essayer de partager, de faire venir des gens du monde de la société civile pour pouvoir faire parler et essayer de décloisonner, si vous voulez, cet entre-soi de champion.
Patrice Evra, vous en parliez, Julien Pontes, qui a insulté les joueurs du Paris Saint-Germain après l'élimination par son ancien club de Manchester United, dans des termes que, évidemment, on ne va pas répéter ici. Est-ce que, au-delà de l'assignation et de l'enquête, est-ce que vous avez envie de lui parler, de lui récupérer pour lui dire « tu peux nous aider ?»
Oula, je crois que avec Patrice Evra,
ça va être trop, difficile.
Très loin, du compte, nous on est toujours prêts à discuter avec tout le monde, mais là il a pas l'air de se rendre compte vraiment de la gravité de ses propos.
Merci Julien Pontes, merci à vous Séguir Lazeri d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Déborah Lepage et Arnold Dassewa à la coordination, Charles Barré à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Fabrice Violet. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr. et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio, rubrique magazine. Participez au débat du jour sur les réseaux sociaux, dans le respect toujours. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.